dimanche, 14h, 15h.
Il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Isabelle Morizet sur Europe 1.
Bonjour. Il est la parfaite version contemporaine de l'honnête homme du siècle des Lumières. Explorateur insatiable, humaniste érudit, mais aussi dramaturge et scénariste, Jean-Claude Carrière est un enchanteur. Un enchanteur à qui le cinéma doit beaucoup. Les scénarios de Belle de Jour, du Tambour de Cyrano de Bergerac, du Retour de Martin Guerre ou de l'insoutenable Légèreté de l'être, nommé aux Oscars, eh bien c'est lui. Alors attention, on part en voyage au fil de ses vies. Bonjour Jean-Claude Carrière.
Et bonjour.
Jean-Claude Carrière, vous qui possédez une bibliothèque de près de 20 000 ouvrages, vous êtes vraiment né dans une maison sans livres.
Sans livres et sans images. Une maison à la campagne dans les années 30, où il n'y avait pas de livres du tout, sauf quelques vieux missels poussiéreux dans un coin, et surtout pas d'images. Il n'y avait même pas d'images dans les journaux. C'est-à-dire moi qui ai vécu tout le reste de ma vie dans le livre et dans l'image, je suis né dépourvu. Je suis né dans l'ignorance de tout ça. Et c'est peut-être ça qui m'en a donné le goût.
Oui, parce que dans Dépourvu, on sent déjà le besoin, le
manque. Oui, absolument. Les premiers livres que j'ai eus étaient des livres de prix scolaires ou de quelques bibliothèques vertes, des livres pour enfants qu'on m'offrait quand j'avais réussi un examen ou quelque chose. Alors ces livres-là m'ont été tout de suite très précieux parce que mes parents n'en avaient pas. Et j'ai constaté que, parce que je l'ai retrouvé par la suite, j'avais déjà constitué un catalogue à l'âge de 11 ans et demi, et j'avais déjà 80 livres. Et j'ai gardé la liste.
Une fortune.
Ça, une fortune, oui.
Alors, votre histoire, Jean-Claude Carrière, elle démarre en pleine vendange, en 1931, à Colombières-sur-Orbe, au pied du mont Carou, ça fleure bon le midi. Vos parents sont des paysans viticulteurs, la vie est rude et la terre est basse. Donc, votre enfance, en fait, vous a préparé à une vie que vous n'avez jamais vécue.
C'est-à-dire, j'ai été élevé dans une culture et j'ai vécu dans une autre. On peut le dire très simplement comme ça. Mon père, j'étais fils unique, m'a appris dans mon enfance et ma première jeunesse, jusqu'à l'âge de 13 ans à peu près, tout ce qu'il savait faire et ce que j'allais devoir faire à sa place. Et
vous étiez censé devenir paysan viticulteur à votre tour.
Je sais très très bien greffer un arbre, je sais labourer avec un cheval, je crois être un des derniers écrivains vivants à savoir le faire.
Comme les paysans du XVIIIe siècle.
À condition de trouver un cheval qui sache, hein, c'est ce que je dis toujours parce qu'il n'y en a plus beaucoup.
C'est difficile de labourer avec un cheval.
Oui, c'est assez difficile, surtout la vigne. Parce qu'il faut apprendre où sont les racines des souches pour ne pas les couper avec le soc de la charrue. C'est assez compliqué, on vous apprend ça enfant. Et cet été, par exemple, j'ai fait, au grand étonnement de mes voisins, un mur en pierre sèche parce que mon père m'avait appris. Il y avait des glissements de terrain derrière ma maison, j'ai fait un mur de 12 mètres de long.
Sans ciment, sans mortier.
Avec 1,50 m d'épaisseur et de remblai derrière, mais sans ciment du tout, sans mortier. Parce que je sais le faire, tout simplement.
Je reviens à votre enfance. Dans cette maison donc, où vous avez grandi, pas d'eau courante, on se lave à l'eau froide, dans une bassine, bien sûr pas de chauffage, et puis vous faites vos devoirs sous une lampe à pétrole. Ça donne une résistance, une hygiène mentale et physique pour toute la vie, ça?
Je le pense aujourd'hui. À l'époque, non, on ne s'en rendait pas compte. À l'époque, on avait envie d'avoir l'électricité et le chauffage central, comme il est normal quand on ne l'a pas. Maintenant, je me dis qu'être passé par là, c'est-à-dire avoir vécu une enfance, on pourrait presque dire moyenâgeuse, enfin dans des conditions de vie qui ne différaient pas tellement de celles qui étaient celles des Romains. Ça m'a peut-être donné quelque chose comme un tremplin pour passer dans l'autre monde, dans celui dans lequel nous vivons aujourd'hui, et dans lequel je suis tout aussi à l'aise. C'est-à-dire, je me sers de l'ordinateur aussi bien que d'une charrue.
Mais quand vous dites tremplin...
Oui, parce que si j'étais resté paysan, si j'avais fait ce que mon père et mon grand-père ont fait... J'aurais dû quitter ce village. Il n'y a plus aujourd'hui de paysans dans ce village, ils ne peuvent plus vivre. Nous avions une propriété toute petite. J'ai assisté dans mes 18-20 ans à la grande migration des garçons du village. Ouais. Sur 10 que nous étions à l'école, 8 sont partis. On quittait le village, ils ne pouvaient plus vivre. C'eût été mon cas. C'était... Alors qu'est-ce que j'aurais fait si je n'avais pas fait ce qu'on appelle des études? Si je n'ai pas... pur produit de la Troisième République, je serais devenu employé des postes, des chemins de fer, enfin, infirmier, quelque chose comme ça. C'est ce que sont devenus tous mes amis, que je revois encore aujourd'hui.
Je reviens sur cette enfance singulière. Le confort de cette maison donc était plus que spartiate, mais il y avait la poésie du dehors, et ça, bien évidemment, ça vous enchantait. Il y avait les vendanges qui marquaient l'apothéose de l'année, la pêche à l'écrevisse, la récolte des châtaignes, la pose des pièges à oiseaux, et puis ce sentiment incroyable de liberté qu'on a à battre la campagne quand on est gosse. Est-ce qu'il est vrai, Jean-Claude Carrière, que vous saviez si bien vous y prendre pour la pêche à l'écrevisse que c'est vous qui avait dirigé Michel Piccoli dans la fameuse scène
Milou
en mai,
oui,
voilà,
absolument, absolument.
Piccoli pêche d'une manière ancestrale.
Fait semblant de pêcher.
Ah, il fait semblant, mais racontez-nous.
Il retire, c'est-à-dire on met ses mains comme appât sous les berges, dans les renfoncements des berges, on attend que les écrevisses vous mordent les doigts et on retire les doigts couverts d'écrevisses. Ça m'est arrivé. Mais dans le film, comme quand même c'est très long à tourner, on lui a attaché des écrevisses subrepticement à ses doigts. Alors elles sont déjà là quand il met ses mains sous l'eau.
Ouais. Mais
je trahis un secret, mais enfin il ne m'en voudra pas.
Vous attendiez que les écrevisses viennent comme
oui,
ça, vous
ça. On peut les pêcher à la balance.
Déchiqueter le bout des doigts.
Oui, on peut les pêcher à la balance, bien sûr, avec, comme on fait habituellement, comme on le fait toujours d'ailleurs aujourd'hui, bien qu'il y en ait beaucoup moins. Mais ça, c'était la manière rapide, brutale et sans appât. On est soi-même l'appât.
Votre père était viticulteur. Quelle sorte de vin produisait-il?
Un vin rouge qui était assez bon, qu'on vendait d'ailleurs en Beaujolais. Je vois encore des camions de Beaujolais venir s'arrêter devant la cave pour prendre ce vin. Par la suite, il s'est beaucoup dégradé car il est devenu un vin de coupage et un vin de cave coopérative. Depuis 20 ans, le vin du Languedoc-Roussillon a retrouvé de la noblesse, de la qualité, des couleurs. Maintenant, c'est un grand plaisir pour moi, quand je vais là-bas, et j'y vais chaque année, au moins pendant 2 mois, d'aller faire les caves. Avec un copain, on va goûter tel vin, tel ça. On fait pas plus de trois ou quatre caves par jour, faut pas exagérer. Mais c'est très très agréable. Je suis encore très attiré et très touché par l'odeur des caves. C'est-à-dire, il y a quelque chose dans les odeurs d'enfance qui vous reste. Moi, celle-là en est une. L'odeur de la cave et aussi, bien sûr, l'odeur des champs l'été. Vous savez, et des grappures, et tous les insectes qui d'ailleurs ont en grande partie disparu. Il y a beaucoup moins d'insectes qu'autrefois, ça c'est dû aux pesticides
bien
et
sûr.
Aux herbicides que nous avons renversés comme des fous.
Alors on est plutôt taiseux chez les paysans, parce qu'il y a trop à faire.
Oui, mon père était très taiseux. Oui.
Très taiseux.
Ma mère moins, mais enfin...
Alors j'aimerais savoir, vous ignoriez, vous, le pouvoir du verbe et de l'imaginaire, ou bien vos parents avaient déjà décelé chez vous un intérêt singulier pour les mots, et puis ce trop-plein de curiosité qui vous apportait.
J'avais deux institutrices à l'école de Colombière qui assez tôt m'ont, j'allais dire repéré, c'est un peu prétentieux, mais enfin tout de suite ont attiré sur mes parents, l'attention de mes parents sur moi, en me disant Jean-Claude, il faudrait lui faire des études. Ce qui était une très grande nouveauté dans la famille, j'étais le premier, juste c'était le premier. Ils ont été un peu réticents et puis finalement les institutrices m'ont fait gagner 2 ans à l'école primaire.
Ouais.
Et à 9 ans et demi, j'ai passé une bourse d'études et j'ai été reçu premier du département. Donc ça, ça a un peu convaincu mes parents. Et
premier du département, tout
oui,
de même.
Oui.
Alors, une bourse d'études qui vous a permis, je crois d'ailleurs, de vivre jusqu'en Hippocagne et
oui,
en Cagne.
Absolument, qui m'a suivi jusqu'à la Cagne et jusqu'à la Normale Sup. Oui. À Normale Sup, non, parce que là, on commence à être payé. Mais qui m'a suivi tout de même. Sans cela, mes parents, ils auraient eu besoin de moi pour travailler la terre au départ et ensuite, ils n'auraient pas pu me payer des études, comme on dit. Vous savez. À cause de ça, et aussi parce que mon père était malade, à la fin de la guerre, quand j'avais 13 ans et demi, ils sont montés à Paris, comme on dit, pour tenir à Montreuil-sous-Bois, en banlieue, c'est là où j'ai passé mon adolescence, un café qui appartenait à des cousins à nous, un café très populaire.
Mais alors ça, c'est incroyable, parce que je pensais qu'on est paysan viticulteur pour toujours. Comment peut-on abandonner ses terres, ses vignes, pour s'expatrier ainsi?
Mais c'est parce que mon père ne pouvait plus travailler la terre. Il est mort d'ailleurs à 52 ans. Aujourd'hui, on lui aurait fait un pontage. Vous savez, il avait une insuffisance aortique. Ma mère, elle, ne détestait pas l'idée de venir à Paris. Du tout, au contraire, elle s'est très très bien adaptée à Montreuil et à Paris, et moi, à plus forte raison. Pour un petit paysan, à la fin de la guerre, le 1er avril 45, je suis arrivé à Paris un 1er avril. Ça a l'air d'une blague, mais parce qu'il fallait que j'arrive pendant les vacances de Pâques pour pouvoir faire le troisième trimestre. Au lycée Voltaire d'ailleurs, et je suis arrivé au lycée Voltaire sans savoir qui était Voltaire. On m'avait jamais parlé de lui, puisque je sortais d'un collège religieux dans le Midi, où j'avais passé mes années de guerre. Donc il faut bien voir.
Mais l'abandon du monde rural n'était pas effrayant pour vous ?
Pour 3 mois, parce que je savais que j'allais y retourner pour les vacances d'été. Donc c'était pas encore complètement coupé. Et ça ne l'est toujours pas. La preuve est que j'y retourne toujours. J'ai gardé la maison où je suis né. Je l'ai aménagée. J'ai fait une piscine. Vous voyez, nous y retournons.
Mais votre vie s'est faite si loin.
Mais pas tellement. Je n'ai jamais vraiment perdu le contact. J'ai toujours eu un pied là-bas et un autre courant un peu partout dans le monde. Vous savez, quand vous vous lancez dans une aventure d'écriture, vous ne savez jamais si ça va marcher, si vous allez pouvoir tout simplement en vivre. Et j'avais toujours dans ma tête l'idée d'une réserve, d'une possibilité, d'un refuge.
De repli.
Si ça ne marchait pas, je reviens là-bas. Encore aujourd'hui, ça, je peux aller vivre là-bas avec 700, 800 euros par mois. C'est-à-dire, ma retraite, il suffirait largement. Vous voyez, je peux le faire, parce que je ne paie pas de loyer, parce que j'ai mon voisin qui, tous les matins, m'apporte une corbeille de légumes et de fruits cueillis là, à 100 mètres. Vous voyez. Donc, tout ça ne coûte pas grand-chose, finalement. Donc, c'était une vraie sécurité. C'était, je ne sais pas comment dire, comme une ceinture de protection, vous voyez.
Je vous ai promis un voyage. C'est vraiment ce qu'on est en train de faire cet après-midi aux côtés de Jean-Claude Carrière. On s'interrompt un court instant et on retrouve immédiatement mon invité.
Il n'y a pas qu'une vie dans la vie.
Isabelle Morizet sur Europe 1.
Pampas, heladas, cardos y ortigas. A la huella, cortando campo. No hay cobijo ni fonda, sigan andando. Florecita del campo, clavel del aire. Si ninguno te aloja, ¿a dónde naces? Donde naces, florcita, que estás creciendo. Palomita asustada, grillo sin sueño. A la huella, José y María. Con un dios escondido, nadie sabía. Tapera para mi niño. A la huella, soles y lunas. Los ojitos de almendra, piel de aceituna. Hay burritos del campo, hay buey barcino. Que mi niño ya viene, háganle sitio. Un ranchito de quincha solo me ampara, dos alientos amigos, la luna clara. A la huella, José y María, con un dios escondido nadie sabía. A la huella, José y María, con un dios escondido nadie sabía.
De son album à venir le 22 octobre, c'était Florent Pagny. L'album s'appelle Bariton. C'était Florent Pagny sur Europe 1 et restez avec nous. Juste après une courte pause, vous retrouvez le tête-à-tête du jour Isabelle Morizet en compagnie de Jean-Claude Carrière sur Europe 1.
Il n'y a pas qu'une vie dans la vie.
Isabelle Morizet sur Europe 1. Le Forum Citoyen sur Europe 1, tous les dimanches, 18h30, 20h.
Bonjour à tous, c'est Wendy Bouchard. La parole est aux Français. Ils réagissent avec nous à l'actu de la semaine. Comment l'ont-ils vécu? Comment l'ont-ils perçu?
Wendy Bouchard prend le pouls de l'opinion.
Des citoyens qui poseront toutes leurs questions à l'ancien ministre de l'Intérieur, Claude Guéant, en direct à partir de 18h30.
Le Forum Citoyen, présenté par Wendy Bouchard.
C'est tout à l'heure, dès 18h30, sur Europe 1.
Jusqu'au 31 octobre 2012, c'est 3 mois gratuits pour tout premier contrat santé individuel souscrit par nous, les pros. Marf Pro, c'est la référence qualité pro.
Conditions sur marfpro.fr.
Je vais en Gaule, je tombe sur toi. Je vais en Égypte, tu me mets des bâtons dans les roues. Maintenant, tu m'empêches d'envahir la Bretagne. Tu as clairement décidé de me pourrir la vie.
Bah écoute, je ne sais, les aventures d'Astérix, c'est pour les aventures de César.
Gérard Depardieu, Édouard Baird, Guillaume Gallienne, Vincent Lacoste, Valérie Lemercier, Fabrice Luchini, Catherine Deneuve et Danny Boone. Astérix et Obélix au service de Sa Majesté. Actuellement au cinéma.
Excellent nouvelle.
Un European film.
Julien est designer de luminaires. Son rêve, être distribué en Suède. Mais pour trouver le financement et les contacts qui lui manquent, c'est le cauchemar. Julien doit-il laisser son rêve dans ses tiroirs ?
À la Société Générale, nous avons créé import-export-solution.fr. Un site où vous trouverez tout sur les financements, les garanties et les partenaires dont vous avez besoin. Rendez-vous sur import-export-solution.fr. Développons ensemble l'esprit d'équipe. Société Générale.
Bon alors, c'est l'histoire d'un artiste muet qui est poursuivi par une armée de singes affamés. Bah comme il a perdu la mémoire, il achète une licorne en secret et devient un as du volant. Et là, bah attends, il rencontre un monstre qui lui explique qu'il faut pas gâcher la nourriture.
Il y a tant à voir sur Canal+. En octobre, retrouvez The Artist, La planète des singes, les origines. 13 saison 2. Tintin, le secret de la licorne. Drive, un monstre à Paris. Le doc événement Global Gâchis. C'est le moment de vous abonner. Canal+ est à seulement 25 euros par mois pendant un an. Appelez le 3910 pour en profiter. 23 centimes la minute, offre soumise à condition pour tout nouvel abonnement.
Isabelle Morizet.
Il n'y a pas qu'une vie dans la vie.
Dramaturge, scénariste, humaniste, érudit et grand voyageur, Jean-Claude Carrière se raconte au fil de ses vies cet après-midi. Jean-Claude Carrière, vous avez quitté les vignes de votre père pour débarquer donc un 1er avril 1945 à Paris. Vous aviez 13 ans et demi. Et vous, le petit campagnard qui pêchait les écrevisses à la main, vous alliez désormais vivre dans un café à Montreuil, un café que vos parents donc avaient pris en gérance. J'ai quand même du mal à imaginer que vous soyez si facilement devenu un enfant de la ville.
Cela n'a peut-être pas été si facile, mais c'était tellement fascinant pour un petit campagnard d'arriver à Paris, et surtout d'arriver à Paris au moment de la victoire. C'est resté pour moi totalement
lié. Ça changeait tout.
C'est-à-dire que quand je suis arrivé le 1er avril, la guerre n'était pas finie. Elle s'est terminée un mois plus tard, au mois de mai. Les fêtes du 14 juillet à Paris, et surtout dans le bistrot que tenaient mes parents à Montreuil, c'est inoubliable. Pour un enfant, j'avais déjà quand même 13 ans et demi, presque 14 ans. Tout Paris était dans les rues, il y avait des soldats américains partout, il y avait des prisonniers libérés, tout le monde chantait, faisait l'amour, dansait, c'était absolument extraordinaire. Bon, j'avais un parrain du Midi, lui aussi, qui était prisonnier en Allemagne. Il est rentré dans ce moment-là, en avril ou mai. Il m'a amené au cinéma, au Gaumont Palace, voir Le Dictateur de Chaplin, un film qui avait été tourné des années plus tôt et qui était
naturellement qui était interdit en France,
n'est-ce pas ? Naturellement, bien entendu, pendant la guerre. 3000 personnes hurlant de joie dans le Gaumont Palace à Place de Clichy, pour moi, c'est ça l'image de la victoire. Oui. C'était Chaplin qui nous venait nous dire, voilà, nous sommes vainqueurs.
Alors,
nous avons
c'était
gagné.
L'image de la victoire et en même temps, c'était pour vous la première rencontre magistrale avec le cinéma.
J'avais vu un peu de cinéma déjà dans mon collège religieux pendant la guerre, essentiellement des films muets. Et comme c'était les films américains et beaucoup de films français légers, disons, étaient interdits, on a vu pas mal de films allemands. Et j'ai vu en particulier, dans ce collège, deux ou trois films de Fritz Lang. J'ai vu Les Nibelungen et j'ai vu Métropolis. Ça m'a énormément frappé enfant, parce que je ne connaissais pas la ville. Donc Métropolis était la première image d'une ville que je voyais avec des milliers d'esclaves souterrains dans des décors extravagants. Et je ne connaissais pas non plus de femmes. Inutile de vous le dire. Enfin, ma mère, ma tante, bien sûr, mais pas de femmes telles que nous pouvons les connaître aujourd'hui. La femme dans ce film est terrifiante parce qu'elle a une enveloppe de chair sur une carcasse métallique. Alors donc, la première image de la ville et de la femme que j'ai eue dans Métropolis, peut-être m'ont suivi longtemps et peut-être me suivent encore.
Quel aveu ! Jean-Claude Carrière, à côté du bistrot de vos parents, il y avait un camp de gitans. Toutes les nuits, ces gitans jouaient du flamenco mêlé de jazz. J'aimerais savoir, c'est là que vous avez rencontré le frère de Django Reinhardt qui vous a fait découvrir Paris par le métro ?
Et Django Reinhardt lui-même, c'est-à-dire
lui-même,
Joseph.
Il venait jouer dans ce camp de gitans.
Joseph Reinhardt, qui habitait le camp de Montreuil, a fait lui aussi partie du quintet du Club de France avec son frère. De temps en temps, ces gitans avaient choisi le bistrot de mes parents comme lieu de rendez-vous. Quand ils avaient un peu d'argent, on baissait le rideau et ils faisaient une grande fête qui durait toute la nuit. Le lendemain, je m'endormais au lycée, inutile de vous le dire. les filles dansaient sur les tables et Django venait de temps en temps, jouer une heure, deux, quelquefois toute la nuit. C'est là où je l'ai connu, c'est lui qui m'a amené au Hot Club de France pour m'y faire inscrire en métro. Mais ce qui m'a beaucoup touché, c'est que cette année, il y a une semaine, s'est inaugurée à la chapelle, à la Cité de la Musique, l'exposition de Django, et qu'on m'a demandé d'écrire le texte pour Django Reinhardt, ce que j'ai fait avec beaucoup, beaucoup de tendresse dans mon souvenir. Il est mort très tôt, il est mort en 53, Django Reinhardt, je l'ai très peu connu.
Oui.
Mais j'ai pu assister à au moins 5 ou 6 de ses concerts, j'allais en coulisses, je les voyais répéter, c'est pour moi que ça reste quelque chose.
Et vous aviez 15 ans.
J'avais, oui, 15 ans, oui. C'est alors, extraordinaire. Bon.
En même temps aujourd'hui. Que vous découvriez cette musique, Jean-Claude Carrière, bah vous restiez un fort en thème qui brûlait les étapes. Vous avez enchaîné avant l'heure Hippocagne, Cagne et Normale Sup. Mais pour gagner votre premier argent, entre 19 et 22 ans, j'ai appris que vous réalisiez des dessins humoristiques pour les journaux de l'époque. Et ces dessins, vous les signez avec un pseudonyme assez savoureux et inattendu.
Carton.
Carton.
Ça
c'est
vient
venu
probablement
comment, Carton
de Cartoon. Ça vient probablement de dessins animés, cartons, adaptations. Et je vendais des dessins à Samedi Soir et à France Dimanche.
Qui étaient deux journaux très
deux
populaires.
Deux journaux très populaires. On allait déposer un petit dossier avec des dessins sur une table. Oui, et on allait, trois jours après, les rechercher. On les comptait pour savoir si on vous en avait pris. Oui. Et j'ai découvert quelquefois, j'ai surpris un ou deux dessinateurs illustres en train de fouiller dans mon dossier. Oui. Mais c'est en effet le premier argent que j'ai gagné, c'est en vendant des dessins. Et c'était pas mal payé, ça
mais
nous
alors
permettait,
vous aviez un talent
Martien,
pour
et moi, d'aller...
La caricature, c'était
oui,
des dessins politiques.
J'ai toujours dessiné depuis l'enfance et je le fais toujours, je dessine tous les jours. On m'a demandé d'illustrer des livres, je le fais encore. J'ai illustré deux de mes livres. Le dictionnaire amoureux de l'Inde et celui du Mexique, puisqu'on parle de voyage. Ouais. Et la semaine dernière encore, on m'a demandé des dessins pour un musée de province, enfin, etc. J'ai toujours cette activité parallèle.
Comme
bien
Victor
entendu,
Hugo,
je ne suis pas un dessinateur. C'est parce que quand je me compare à des vrais dessinateurs, pour être un dessinateur, c'est comme pour tout. Il faut dessiner 3 ou 4 heures par jour, tous les jours. Et je n'ai pas le temps de le faire, c'est comme un pianiste. Mmh. C'est comme un peintre. Enfin, toute activité, quelle qu'elle soit, demande quelque chose de quotidien. Mmh. Il y a une phrase merveilleuse de Georges Brassens dans une de ses chansons, où il parle d'une prostituée, où il dit « Elle avait le don, c'est vrai, j'en conviens, elle avait le génie, mais sans technique, un don n'est rien qu'une sale manie. » Voilà. Donc la technique, dans toute chose, est absolument indispensable. Sinon, ça devient une manie.
Dans toute chose. Dans toute chose. Alors, j'en reviens au dessin. Est-ce que vos profs, en Hippocagne, par exemple, savaient que les dessins de carton dans la presse, eh bien, c'était vous?
Un l'a su, oui. Un l'a su, certains de mes copains le savaient, d'autant plus que je faisais aussi des dessins en classe, je faisais les caricatures des profs, naturellement. Il y avait un cahier d'archives dans lequel toutes ces caricatures figurent, je ne sais pas où il est aujourd'hui, quelqu'un l'a piqué. Mais oui, certains le savaient, oui, oui. Et même, je crois qu'on m'a confisqué certainement, mais en Cagne, on est déjà à un certain niveau. Il y a une vraie complicité entre les profs et les élèves, donc c'est plus... D'ailleurs, on est élève-professeur, vous voyez, c'est... et on peut se permettre ce genre de liberté.
Jean-Claude Carrière, vous aimez à dire que en fait, vous n'avez jamais eu 20 ans. Vous êtes passé très vite de 18 à 25, tout en faisant, bien sûr, après Cannes, une maîtrise d'histoire, et puis Normale Sup, et 2 ans de service en Algérie. Mais en 57, quand vous avez sorti votre premier roman, Le Lézard, alors que vous n'aviez pas encore eu rendez-vous avec le cinéma, vous vouliez devenir Balzac ?
Non, j'ai écrit ce livre comme on écrit toujours un premier livre, un petit peu au hasard. Guy Bachetel, mon ami qui était avec moi en Cannes, et qui était entre-temps devenu journaliste, directeur adjoint de Marie France, avait écrit un premier roman. Il m'a dit « Pourquoi tu n'essayes pas ?» C'était pas si difficile que ça de publier un livre, d'avoir une carte de visite comme ça. Robert Laffont m'a fait confiance, m'a publié ce livre, et ça m'a ouvert évidemment énormément de portes, puisque c'est grâce à ce premier livre que, 2 ans plus tard, j'ai rencontré Jacques Tati. Donc c'est ça qui m'a conduit vers le cinéma.
Nous allons parler du Mahabharata, nous allons parler de Jacques Tati. Allez, on s'interrompt un court instant et on retrouve mon invité cet après-midi, Jean-Claude Carrière.
Il n'y a pas qu'une vie dans la vie.
Isabelle Morizet sur Europe 1.
Les jours qui comptent, MACSF.
Tu crois vraiment ?
Mais oui, enfin. Tu as des économies. Place-les maintenant. Pour toi ou pour aider tes enfants plus tard. Mais attention, il faut frapper à la bonne porte.
Depuis 75 ans, la MACSF conseille aux professionnels de la santé et leurs proches des solutions d'épargne récompensées par la presse financière. Et pour 2012, notre taux de rémunération d'épargne sera encore l'un des meilleurs du marché. Jusqu'au 26 décembre 2012, bénéficiez de frais réduits sur tous vos versements épargne-retraite. MACSF. Notre engagement, c'est vous.
Changer de voiture, c'est souvent galère. Vous mettez une petite annonce et vous attendez. Et puis vous ne la vendez pas toujours au prix que vous souhaitez. C'est tout ? et vous cherchez une nouvelle voiture.
Allô ? Allô ? Oui, allô, j'appelle pour l'annonce.
Et si vous alliez plus tôt chez Renault Occasion ? Du 11 au 27 octobre, ne ratez pas les occasions Renault. Vendez votre ancienne voiture au prix de l'Argus, plus 500, plus 1000 ou plus 1500 euros, et achetez votre nouvelle voiture au prix de l'Argus avec la garantie Renault Occasion. Offre réservée aux particuliers sur véhicules signalés, voire conditions dans le réseau Renault participant.
Non mais tu le crois ça ? Hier, 23h, retour de week-end, en panne au milieu de nulle part.
Attends, attends, ne me dis rien là. La dépanneuse te dépose sur le parking du garage le plus miteux du patelin, forcément fermé. Bref, t'es piéton et ça va te coûter un bras.
À la GMF, les idées reçues, nous, on les plaque. En cas de panne, nous vous venons en aide et nous pouvons même prendre en charge les réparations. C'est ça, une bonne assurance.
GMF, assurément humain.
Et jusqu'au 30 novembre, la GMF vous offre les deux premiers mois de votre assurance auto. Voir conditions en agence ou sur gmf.fr.
Le club Europe 1.
Stéphane Guillon et Gaspard Proust sont sur la scène du Théâtre Antoine jusqu'au 3 novembre dans la pièce de Cressman Taylor, Inconnue à cette adresse, une pièce Europe 1. Si vous êtes membre du Club Europe 1, nous vous proposons de passer une agréable soirée le 25 octobre. Pour cela, tentez votre chance en vous inscrivant sur club.europe1.fr. Un petit rappel, si vous n'êtes pas encore membre du club, nous vous invitons à le devenir dès maintenant. C'est gratuit, bonne chance à tous. Tout de suite, il n'y a pas qu'une vie dans la vie, Isabelle Morizet en compagnie de Jean-Claude Carrière.
Il n'y a pas qu'une vie dans la vie.
Isabelle Morizet sur Europe 1.
Jean-Claude Carrière, on vient de vous quitter, jeune romancier, publiant à 26 ans sa première œuvre intitulée Le Lézard. Mais à ce moment-là, vous ignorez complètement que le monde du cinéma s'apprête à vous capturer pour faire de vous le plus grand scénariste français. En fait, tout commence à cause, j'ai envie de dire, grâce à Jacques Tati. Il faut vraiment nous raconter.
Jacques Tati avait à l'époque un contrat avec Robert Laffont, mon éditeur, pour tirer deux romans, Des Vacances de Monsieur Hulot et de Mon Oncle, qu'il était en train de tourner. Laffont m'a demandé, est-ce que ça vous intéresse d'écrire un chapitre des Vacances de Monsieur Hulot, vous serez 5 ou 6 ou 7 à l'écrire et c'est Jacques Tati qui choisira. J'ai dit oui tout de suite. Et j'ai écrit ce chapitre et Tati l'a choisi. Donc c'est là que, pour la première fois, je pousse la porte d'une maison de production de cinéma, rue Dumont-d'Urville, à Paris. Je suis reçu par Tati, qui était un très très grand personnage. Moi, j'avais 25 ans.
Oui.
Et il me fait asseoir et il me dit « Oui, bon, j'ai lu votre truc, là, c'est pas mal. » Par la suite, j'ai su, il ne l'avait pas lu du tout. C'était Pierre Etex, son assistant, qui l'avait lu et qui lui avait dit « C'est celui-là le meilleur. »
D'accord.
Oui. Non, j'ai lu votre truc, bon, ça ne m'intéressait pas du tout. Et puis il me dit tout à coup, mais ça, ça a été absolument décisif. Cette journée-là, dans ma vie, elle est marquée d'une pierre blanche. Tout à coup, il me regarde et me dit, mais qu'est-ce que vous savez du cinéma, vous ? Alors, je lui ai dit, monsieur Tati, je vais au cinéma 3 fois par semaine, j'ai vu tous vos films 4 fois, je vais à la cinéma. Non, mais ce n'est pas ce que je veux dire. Qu'est-ce que vous savez de comment on fait un film ? Ben, je lui dis, je sais rien, monsieur. Vous n'avez jamais été dans un studio, dans un auditorium? Non, jamais. Bon. Il a eu cet instinct de comprendre que si je voulais écrire un roman d'après les vacances de monsieur Hulot, il fallait que je sache comment le film avait été fait. Alors, il a appelé Suzanne, et j'ai vu arriver une très charmante jeune femme de 32 ou 33 ans, Suzanne Baron, avec qui je devais travailler beaucoup par la suite. C'est elle qui a monté le tambour, en particulier, plus tard. Très charmante, et il lui dit cette phrase inouïe. Il lui dit, Suzanne, prenez ce jeune homme et montrez-lui ce que c'est le cinéma. Ça, c'est évidemment... On ne peut pas rêver.
Et alors, que fait Suzanne, Jean-Claude Carrière ?
Elle m'amène dans des escaliers, des couloirs, jusqu'à son petit domaine, qui était la salle de montage. Toute petite, elle m'assied là, elle me montre cette très mystérieuse machine qui permet de voir l'image d'aller en avant, en arrière, avec un levier, comme ça se passait autrefois. Aujourd'hui, ça a beaucoup changé. Et elle me dit, asseyez-vous, je vais vous montrer comment ça marche. Elle met la première bobine des Vacances de Monsieur Hulot sur la machine, le scénario là, à ma gauche, et moi j'ai des feuilles blanches à droite pour passer à une troisième forme qui sera celle du livre. Et elle me dit, en posant sa main sur le scénario, puis sur le film, elle me dit, tout le problème, c'est de passer de ça à ça. Voilà. D'une chose écrite à une chose filmée. C'est-à-dire, dès le premier jour, j'ai senti que c'était une différence de langage,
oui,
de support, qu'il fallait absolument trouver une autre écriture entre le scénario et le film. Une écriture cinématographique.
Oui.
Alors, elle est restée avec moi 8 jours, et Pierre Etex, qui était là, passait par la porte, disait, si vous avez besoin de quelque chose, je suis là. Et tout de suite, on a sympathisé, on s'est trouvé un goût commun très fort qu'on a.
Et vous avez écrit pour lui.
Et on a écrit tout de suite ensemble 4 courts-métrages, dont 2 ont été réalisés à mon retour d'Algérie, dont vous parliez, et le second a eu l'Oscar.
Celui qui a eu l'Oscar, c'est
Heureux Anniversaire.
Heureux Anniversaire.
quand on est rentré dans le bureau de la production, Paul Clodon, le producteur, sautait de joie en disant « On a l'Oscar, on a eu l'Oscar !» Et moi, je lui ai demandé « C'est quoi l'Oscar ?» Je ne le savais pas. Donc, et c'était vraiment mes tout débuts. Je revenais du Djebel, du Bled, je débarquais. Et là, il nous a donc permis de faire un long-métrage, Le Soupirant, qui a eu le prix de Luc, qui a eu un très très grand succès. À partir de là, c'était parti. Je ne l'ai plus jamais arrêté jusqu'à aujourd'hui.
Alors, vous dites c'était parti. Vous avez rencontré ensuite Louise Bunuel,
n'est-ce
pas, qui cherchait un scénariste pour l'adaptation du journal d'une femme de chambre. D'ailleurs, le premier rendez-vous a été surréaliste. Il vous attendait en plein festival de Cannes. Il vous emmène déjeuner et vous demande les yeux dans les yeux, le plus gravement du monde, comme si votre engagement dépendait de ça. Est-ce que vous buvez du vin?
Oui.
Alors, il était bien tombé face à un fils de viticulteur.
Quand je lui dis que non seulement j'en buvais, mais que j'étais un fils d'un petit viticulteur, son visage s'est éclairé. Il a commandé 2 bouteilles que d'ailleurs nous n'avons pas bu. Et plus tard, il m'a dit, au moins si vous aviez été complètement nul, nous avions quelque chose de quoi parler.
Mais dites-nous, Jean-Claude Carrière, pour Bunuel, vous avez donc écrit Belle de jour, vous avez écrit le scénario de, du charme discret de la bourgeoisie.
Oui, la Voie lactée,
cet obscur,
le fantôme de la liberté,
objet du désir. Est-ce que c'est Bunuel qui vous a appris à débarrasser totalement votre imagination des convenances?
Non, il m'a beaucoup aidé dans l'entraînement de l'imagination au-delà des limites habituelles. C'est-à-dire que pour lui, pour Bunuel, l'imagination était un muscle. Exactement comme pour un athlète, et il faut la développer. Alors, bien entendu, il faut le contrôler, on peut pas. Bunuel disait toujours, on peut faire n'importe quoi, sauf n'importe quoi. Hein? Il y a cette fameuse expression de Salvador Dali, la méthode paranoïa critique, qui avait tellement séduit André Breton. Nous essayons de l'appliquer, paranoïa, c'est-à-dire partir dans tous les sens, les plus cinglés, les plus fous, mais avec toujours un regard critique. Un petit retour sur ce que nous avons exploré et découvert. Un scénariste doit tuer son père, violer sa mère et trahir sa patrie. Sinon, il va ne pondre que du sirop. Il faut faire l'effort sur soi de briser en soi-même ces freins, ces convenances que nous avons tous, qui sont des règles très anciennes, qui sont imprimées en nous par notre éducation. Il faut, si nous voulons trouver en nous l'assassin, le salaud, le coupable, l'ordure. Il me disait aussi, et rassurez-vous, vous le trouverez.
J'ai entendu dire, Jean-Claude Carrière, que Lacan avait pour habitude de projeter Belle de jour dans ses séminaires de psychanalyse. C'est pas une légende.
C'est-à-dire, non, pas du tout. Quand, dans les séminaires de Lacan à Royaumont, les fameux séminaires, quand il en venait à parler du masochisme au féminin, il disait, bon, aujourd'hui, je vais vous montrer Belle de jour et moi, je rentre à la maison. Parce qu'il disait, tout est dit dans le film. Et nous n'en étions pas conscients au début de l'écriture de Belle de jour. Ce n'est que peu à peu, parce que Belle de jour, nous avions décidé d'introduire dans cette histoire assez banale d'une femme qui va faire des passes l'après-midi dans une maison de rendez-vous, d'introduire des fantasmes. Mais ces fantasmes féminins, nous ne sentions pas le droit. Deux hommes, dont un espagnol, de les imaginer. Donc nous avons demandé à des femmes. Nous avons fait toute une série d'enquêtes. Certaines ont commencé dans les bordels de Madrid, pour tout vous avouer.
Oui.
Puis Guy Bechtel, journaliste, avait, à Marie-France, organisé une enquête clandestine auprès de ses lectrices. C'était sur quels sont vos fantasmes favoris. Une centaine de ces fantasmes nous ont été racontés donc par des femmes. Nous avons choisi ceux qui nous paraissaient les plus filmiques, les plus cinématographiques. Il s'est trouvé que c'était, pour Lacan et d'autres, tous des fantasmes masochistes. Donc nous les avons gardés, mais ce n'était pas volontaire au départ. Ce n'est que peu à peu, en explorant le sujet et le personnage, que nous nous sommes rendus compte de ça. Ce qui donne le charme persistant et étrange et discret de Belle de jour, c'est que, je crois, aujourd'hui, tout ce qui est l'histoire réelle d'elle, son mari, etc., est banal, artificiel et on pourrait dire conventionnel, presque fausse. Tout ce qui est imaginaire est vrai. Oui, c'est tout ce qui paraît le plus inventé, le plus hors du monde est absolument vrai, et le reste, non.
En tout cas, Jean-Claude Carrière, la vie d'un scénariste, c'est vraiment celle d'un caméléon, car pendant que vous écriviez des films donc pour Louise Bunuel, vous écriviez également les scénarios de La Piscine, par exemple avec Delon, Romy Schneider, ou de Borsalino, ou encore du Tambour. Alors, on dit qu'un peintre peint souvent le même tableau, un écrivain refait souvent le même livre. Comment un scénariste peut-il démultiplier à l'infini et à la commande son imaginaire ?
C'est pas vraiment à la commande, parce qu'il y a beaucoup de propositions que j'ai refusées, parce que je ne me sentais pas capable de le faire. Mais c'est vrai qu'on m'a proposé, on me propose toujours énormément de sujets, pratiquement un par jour. Alors j'ai le choix de, s'il y en a un dont je sens que je peux en faire un film intéressant, je saute dessus. Et pourquoi ? Parce que si j'étais metteur en scène, j'aurai un film à faire. Pour faire un film, il faut un minimum de 3 ans pour un metteur en scène. Un scénariste peut travailler sur 2, 3, quelquefois 4 sujets par an. Il peut virevolter d'ici, de là, aller de quelque chose qui se passe ailleurs. Il suffit qu'il y trouve un contact, qu'il puisse s'introduire dans cette histoire-là, dans cette situation-là. Et très souvent, ce sont aussi des scénarios originaux que j'ai inventés moi-même. Tous les films avec Pierre Etex sont
des
scénarios que nous avons inventés. Et il se trouve que je ne suis pas comme ces romanciers qui font toujours le même roman, vous voyez, répétant les mêmes thèmes, les mêmes personnages, que je respecte d'ailleurs, je dirais François Mauriac par exemple. Non, je suis beaucoup plus attiré par la diversité que par l'homogénéité. Je vous l'avoue, un hétérosexuel, je ne m'en cache pas, je fais mon coming out devant Isabelle aujourd'hui, mais je suis aussi et surtout un hétéroculturel. Je m'intéresse beaucoup, beaucoup aux autres cultures que la mienne, peut-être plus aux autres qu'à moi.
Pourquoi Balzac est-il, selon vous, le plus grand scénariste de tous les temps ?
À cause d'une extraordinaire pulsion dramatique qu'il possède. Balzac est unique en son genre. Vous ouvrez le Père Goriot, je vous défie de vous arrêter. Et vous êtes obligé de tourner les pages pour savoir ce qui va se passer. L'invention dramaturgique de Balzac et la nourriture qu'il donne à chacun de ses personnages est incomparable.
On retrouve immédiatement Jean-Claude Carrière.
Il n'y a pas qu'une vie dans la vie.
Isabelle Morizet sur Europe 1.
Je la joue maladroite, si mi la ré sol do fa. Cette petite cantate fa sol do fa n'était pas si maladroite quand c'était toi. Les notes couraient faciles, heureuses au bout de tes doigts. Moi j'étais la malhabile, si mi la ré sol do fa. Mais tu es parti fragile vers l'au-delà, et je reste malhabile fa sol do fa. Je te revois souriante, assise à ce piano-là. Disons bon, je joue, toi chante. Chante, chante là pour moi. Si mi la ré, si mi la ré, si sol do fa. Si mi la ré, si mi la ré, si sol do fa. Oh mon ami, oh ma douce, oh ma si petite à moi. Mon Dieu, qu'elle est difficile, cette cantate sans toi. Une petite prière là, 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 là. Avec mon cœur pour la faire, et mes 10 doigts. Petite prière, mais sans un signe de croix. Quelle offense, Dieu le Père, il me le pardonnera. Si mi la ré, si mi la ré, si sol do fa. Si mi la ré, si mi la ré, si sol do fa. Les anges avec leurs trompettes la joueront, joueront pour toi. Cette petite cantate, comme nous jouions autrefois. Les anges avec leurs trompettes la joueront, joueront pour toi. Cette petite cantate.
Après la disparition de Barbara, elle reprend dans son nouvel album 13 chansons de Barbara, donc à venir le 29 octobre. C'était Daphné avec une petite cantate à l'instant sur Europe 1. Et restez avec nous dans quelques instants. La suite, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Isabelle Morizet en compagnie de Jean-Claude Carrière.
Il n'y a pas qu'une vie dans la vie.
Isabelle Morizet sur Europe 1. Europe 1 Matin,
Bruce Toussaint.
Europe 1 Matin, c'est une information claire, précise et des points de vue sur l'actualité. À 7h40, Caroline Roux signe son édito politique.
Le ministre n'est plus au service de la politique du gouvernement, il est bien souvent le serviteur de sa propre ambition.
Et à 8h30, Natacha Polony pose son regard critique sur l'actualité dans sa revue de presse.
Les caisses de l'UMP, c'est comme les caisses de l'État après 5 ans de Sarkozy, elles sont vides.
Europe 1 Matin, présenté par Bruce Toussaint.
C'est du lundi au vendredi, 7h-9h,
sur Europe 1.
Europe 1.
Non, avec le nouveau contrat santé de MAF Pro, l'assurance santé collective n'est pas réservée aux grandes entreprises. À partir d'un seul salarié, nous, chefs d'entreprise, pouvons faire bénéficier nos salariés d'une assurance santé pour eux et leur famille, avec les mêmes avantages et protections qu'une grande entreprise. Et avec MAF Pro, notre participation à leur cotisation santé est exonérée de charges sociales et déductible du bénéfice imposable. MAF Pro, c'est la référence qualité pro.
Conditions sur mafpro.fr.
Bonjour les enfants.
Bonjour papa.
Alors j'ai une grande nouvelle, j'ai enfin découvert ce que manger bouger veut dire.
Ça veut dire qu'on va plus courir autour de la maison pendant le dessert?
Ouais, fini.
Non, même qu'on va plus faire des pompes après l'entrée?
Oui, ça aussi, c'est enfin fini.
Besoin de vraies bonnes idées pour bien manger et bouger plus? Rendez-vous sur mangerbouger.fr et découvrez enfin tout ce que manger bouger veut dire. C'était un message de l'INPES et du ministère de la Santé.
Chérie, je pourrais pas aller chez ta mère demain.
Quoi? Tu rigoles?
Ah, pas du tout. Gina prolonge ses 30 ans, avec moins 50% sur toute sa cuisine et une voiture à gagner.
Ah, bah t'as raison, on ira la voir à Noël.
C'est ça.
Prolongation du 8 octobre au 3 novembre de l'irrésistible anniversaire Gina. Conditions de ces offres et règlements en magasin et sur Gina.fr, où vous trouverez aussi votre magasin le plus proche.
Isabelle Morizet sur Europe 1.
Il est le plus grand scénariste du cinéma français. Je reçois cet après-midi Jean-Claude Carrière. Jean-Claude Carrière, c'est à vous qu'on doit l'adaptation au cinéma du chef-d'œuvre d'Edmond Rostand, Cyrano de Bergerac, réalisé par Jean-Paul Rabneau. Or, j'ai appris une chose vraiment étonnante. Vous avez pour le film, paraît-il, vous allez me dire si c'est vrai, composé 150 alexandrins de votre cru. Donc oui. 150 alexandrins qu'Edmond Rostand n'a jamais imaginé.
Jamais écrit. Non,
voilà, aucun... cette liberté, c'était une nécessité.
Une nécessité absolue, parce qu'on ne peut pas, la pièce fait 3h30, c'était pas possible de toute la filmer. Il fallait resserrer certaines scènes, adapter certains alexandrins, écrire carrément certaines tirades, mais à la manière de Rostand. Or, j'ai la chance d'avoir appris la prosodie française d'assez près, quand j'étais plus jeune. Donc, à la stupéfaction de Jean-Paul Rapneau, tout à coup, je me mettais à écrire une réplique qui paraissait tout à fait vraisemblable. Alors, quelquefois, il s'agissait tout simplement de changer un mot. Par exemple, au début, quand ils arrivent dans le théâtre, il y a les brigands qui disent « les dentelles surtout au canon, coupez-les, 12 pieds hein. ». Oui. Les dentelles au canon. Personne aujourd'hui ne sait que les canons, c'était le bas des hauts de chausses.
Hein.
On voit des canons avec des dentelles. Alors, merci. Je supprime les canons, je sais plus ce que j'ai mis, les dentelles sur vous, sur tous mes enfants, coupez-les, quelque chose comme ça. Trois pieds, vous voyez. Puis ensuite, il y a des vers entiers. Il y a, à un moment donné, Edmond Rostand emploie beaucoup d'expressions du XVIIe siècle, les dépouilles opimes, par exemple. Vous savez ce que c'est que les dépouilles opimes?
Expliquez-nous.
Non, les dépouilles opimes, c'était les dépouilles que les empereurs romains, au cours de leur triomphe, montraient au peuple de Rome. Conquise sur l'ennemi.
Quand il rentrait
personne
dans Rome,
oui.
Comme par exemple
tout ça, il faut le changer.
Avec la fille de Cléopâtre.
Exactement.
Voilà.
Il y a une lettre de soi-disant de Christian, mais en réalité de Cyrano Roxane, Alexandrin, que j'ai entièrement écrite dans le...
Non.
Oui, dans le film, bien sûr. Mais pratiquement personne ne s'en est rendu compte. Et dans certains cas, certains Rostandiens maintenant presque félicités.
Parce qu'en plus de la technique et du sens de la prosodie, il faut
si
savoir faire à la manière de...
Je vous raconte juste une petite anecdote. Il y a une scène dans Cher Agneau où Cyrano vient d'être profondément déçu par Roxane, qui en aime un autre. Il se relève fanfaron et il dit « Voici les cadets de Gascogne de Carbon de Casteljaloux ». On s'est dit avec Rapon, c'est pas possible qu'un homme déprimé dise ça. On va le faire dire, alors je lui ai dit... C'est pas normal non plus que ce soit un simple soldat. C'est au capitaine de dire ça, à
oui.
Carbon
oui.
De dire. Alors j'ai donné la réplique à Carbon, il se trompe en la disant et Cyrano la reprend. C'est comme ça dans le film. À la fin, on a fait lire le scénario à un spécialiste de Rostand. Il nous a dit, d'où est venue cette idée? Ben, je l'ai dit. Vous savez que Rostand l'avait écrit comme ça, en donnant la réplique à Carbon. Et je lui ai dit, mais comment ça se fait que maintenant ce soit... C'est parce que pendant la répétition, Coquelin, acteur très célèbre,
voilà.
A dit, ça c'est trop bon, je le prends. Voilà. Et le jeune Rostand n'a rien pu dire.
Retour aux origines.
Alors, c'était très émouvant qu'un auteur mort et un auteur vivant
oui.
Soient exactement sur la même ligne. Vous voyez, ça nous a beaucoup touchés avec Jean-Paul. Oui.
Jean-Claude Carrière, 2 ans avant Cyrano de Bergerac, l'adaptation que vous avez signée pour L'insoutenable légèreté de l'être vous a emmené aux Oscars. Donc, le cinéma américain aurait dû vous solliciter, vous réclamer. Mais ça n'a pas été le cas.
Il l'a fait souvent, mais ça ne m'intéresse pas de travailler aux États-Unis.
C'est vous qui avez refusé.
Assez souvent. Je l'ai fait une fois ou deux avec Philippe Kaufman. On a fait avec Jacques Deray un film à Hollywood qui s'appelait Un homme est mort, etc. Avec Miloš Forman, on a tourné aussi à New York. Mais je ne me sens pas capable de me plier au système américain, qui est très particulier, qui n'est pas le nôtre. C'est une autre conception du cinéma qui n'est pas la mienne. Voilà, c'est tout. Je préfère travailler.
Vous êtes trop cérébral pour le système américain.
Non, c'est pas une question. C'est une question d'indépendance de l'auteur. L'auteur, là-bas, est un rouage dans une énorme machine qui est écrasée. D'ailleurs, très souvent, le producteur demande à plusieurs équipes de scénaristes d'écrire sur le même sujet. Ensuite, il fait sa compote lui-même, vous voyez, il mélange tout. Non, je ne peux pas me plier à ça. Alors, L'insoutenable légèreté, qui est un film américain, qui est un film de Philippe Kaufman, c'est différent. Ça se passait en Europe. C'était des personnages européens, même s'ils parlent anglais. Un anglais, d'ailleurs, adapté à l'Europe. Un anglais européen. Il n'y a aucun américanisme dans le film, vous voyez. Et c'est pour ça que le film, d'ailleurs, je pense, a eu une grande audience à travers le monde. Mais on avait eu déjà deux fois l'Oscar. On avait eu l'Oscar du film étranger avec Le Tambour de Schlendorf et avec Le Charme discret de la bourgeoisie de Buñuel.
Ils sont où, ces Oscars? Ils sont rangés où?
Ah, l'Oscar est toujours pris par le producteur, hein. Aux États-Unis, l'auteur du film,
il n'y a
c'est
pas de réplique pour
non,
le scénariste.
Non, pas du tout.
Il faudrait y songer. On reste à Hollywood, Jean-Claude Carrière. Vous vous souvenez de ce déjeuner surréaliste coincé entre Hitchcock et Louise Buñuel?
Moi, je connaissais assez bien Cukor. J'avais vécu à Los Angeles. Et je vais un jour avec Buñuel au festival de Los Angeles, justement. Et Cukor m'appelle et me dit, pareil, que Buñuel is in town, est en ville. J'ai dit, oui. Je voudrais l'inviter avec quelques amis. On y va et on voit arriver Hitchcock, John Ford, tous les grands, Billy Wilder, William Wyler, Mamoudian, tous les grands cinéastes américains étaient venus rendre hommage à Buñuel. Ça a été un déjeuner extraordinaire. Et à la fin du repas, c'est moi qui ai eu l'idée d'appeler un photographe pour prendre une photo de ce groupe-là. John Ford avait dû partir. Il était très fatigué, il n'est pas sur la photo. Mais cette photo a été le collector's item de l'année, l'objet de collection.
Est-ce qu'elle est dans votre bureau, cette photo?
Oui, bien sûr, naturellement.
Alors, allez, on pousse la porte, on entre dans votre bureau. Vous avez choisi un lieu de vie chargé, Jean-Claude Carrière. Vous habitez à Pigalle, un hôtel particulier qui est une ancienne maison de passe où Stefan Zweig et Alphonse
Allais... Maison de passe et maison de jeu.
Et maison de jeu, cercle, je rectifie.
Le cercle Massé, il y avait les deux.
Voilà.
Il y avait deux étages pour l'un, deux étages pour l'autre.
Alors Stefan Zweig...
Il a vécu, Toulouse-Lautrec, il y a peint. Il y a
voilà,
pas vécu,
il avait son atelier au dernier étage.
Oui, il y a un atelier de peintre dans l'hôtel, donc il venait y peindre, mais lui habitait quelques rues plus loin.
Donc cet endroit a une histoire forte, intense.
Un coup de peau inouï de pouvoir l'acheter il y a déjà 30 ans.
Où avez-vous choisi de poser votre bureau à vous pour
écrire? Ma femme a choisi de me mettre au sous-sol.
Non,
je suis très très bien au sous-sol parce qu'il y a une entrée sur le côté, donc ce n'est pas vraiment un sous-sol. C'est un étage à l'anglaise, vous voyez. Là. Il y a une pente douce qui y conduit, dont je peux rentrer. Et je suis très très bien là.
Souvent les grands voyageurs sont de grands collectionneurs. Vous êtes les deux. Alors quel est l'objet, non pas le plus précieux, mais le plus chargé en émotions que vous aimez avoir près de vous?
Sans conteste, la tête de Ganesha, du dieu indien Ganesha, qui a servi pendant les représentations du Mahabharata et qu'on m'a donné à la fin des représentations. Il est là, tout près de moi, parce que c'est le dieu des écrivains. En Grèce, c'est le dieu des écrivains et des voleurs, il faut dire. Et il est là, de temps en temps, je vais le saluer, je lui demande l'inspiration. C'est un tel personnage tellement merveilleux, Ganesh, que mon rêve serait, après ma mort, de partir avec lui dans les espaces, pour longtemps, et nous nous raconterions des histoires, l'un à l'autre. Il en connaît beaucoup, et moi aussi.
On retrouve tout de suite Jean-Claude Carrière.
Il n'y a pas qu'une vie dans la vie.
Isabelle Morizet, sur Europe 1.
Bon alors, c'est l'histoire d'un artiste muet qui est poursuivi par une armée de singes affamés. Bah comme il a perdu la mémoire, il achète une licorne en secret et devient un as du volant. Et là, attends, il rencontre un monstre qui lui explique qu'il faut pas gâcher la nourriture.
Il y a tant à voir sur Canal+. En octobre, retrouvez The Artist, la planète des singes, les origines. 13 saison 2. Tintin, le secret de la licorne. Drive, un monstre à Paris. Le doc événement Global Gâchis. C'est le moment de vous abonner. Canal+, est à seulement 25€ par mois pendant un an. Appelez le 3910 pour en profiter. 23 centimes la minute, offre soumise à condition pour tout nouvel abonnement.
Non mais tu le crois ça? Hier, 23h, retour de week-end, en panne au milieu de nulle part.
Attends, ne me dis rien là. La dépanneuse te dépose sur le parking du garage le plus miteux du patelin, forcément fermé. Bref, t'es piéton et ça va te coûter un bras.
À la GMF, les idées reçues, nous, on les plaque. En cas de panne, nous vous venons en aide et nous pouvons même prendre en charge les réparations. C'est ça, une bonne assurance.
GMF, à
assurément humain.
Et jusqu'au 30 novembre, la GMF vous offre les deux premiers mois de votre assurance auto. Voir conditions en agence ou sur gmf.fr.
50 ans avant Jésus-Christ, César a soif de conquête. Il décide d'envahir la Bretagne. La reine des Bretons envoie chercher de l'aide en Gaule.
Oh, c'est chouette, ils ont des Romains tout neufs là-bas.
Gérard Depardieu, Éluard Bert, Guillaume Gallienne, Vincent Lacoste, Valérie Lemercier, Fabrice Lucchini, Catherine Deneuve et Danny Boone. Par le réalisateur du Petit Nicolas, Astérix et Obélix au service de Sa Majesté. Actuellement au cinéma.
Excellente nouvelle.
Un European film.
Tout de suite sur Radio 80. 80. 30 ans de bandana, 30 ans de même voiture. Je vous laisse avec Thierry. Ah, il est encore en panne. Eh ben, on va l'attendre en musique.
Et si vous changiez plutôt de voiture, en octobre, Citroën C3 Picasso Confort avec climatisation, radio CDMP3 et régulateur de vitesse est à partir de 11 990 euros.
Citroën, créative technologie.
Offre non cumulable dans la limite des stocks disponibles sous condition de reprise d'un véhicule de 8 à 10 ans. Détails sur citroencarstore.fr.
Isabelle Morizet sur Europe 1.
Jean-Claude Carrière, vous qui êtes radicalement athée, vous avez passé 3 mois en compagnie du Dalai Lama afin d'écrire un livre intitulé « La force du bouddhisme ». Et vous avez adapté pour le théâtre et la télévision l'un des livres les plus anciens de l'humanité, le Mahabharata, qui est un long poème de 12 000 pages, écrit en sanskrit et à l'origine des religions et de la pensée indienne. Vous êtes donc un athée qui, en fait, aimerait ne plus l'être.
Oui, c'est-à-dire, je suis radicalement athée, je veux bien. Disons, je suis athée, mais pas polémiste. Hein, je n'essaie pas de convaincre ceux qui croient en ceci ou en cela. Quant au Dalai Lama, il est aussi athée que moi. Hein, le bouddhisme ne connaît pas Dieu, il faut bien le dire ça.
Alors, quelle affirmation ? Il est aussi athée que vous, le Dalai Lama.
Il n'y a pas de Dieu dans le bouddhisme. Il n'y a pas de Dieu. Il n'y a pas de croyance en Dieu dans le bouddhisme.
Il n'y a pas de Dieu, il y a une forme de croyance.
Il y a une phrase du Dalai Lama qui dit « La croyance en un Dieu créateur pose beaucoup plus de problèmes que ça n'en résout. » Signé Dalai Lama, il l'a dit plusieurs fois. Non, mais tout le bouddhisme est comme ça. L'hindouisme, non. Alors, le Mahabharata, c'est hindouiste. C'est pas bouddhiste. Et c'est bien antérieur au Dalai Lama et au bouddhisme. Et ça, c'est un poème extraordinaire. C'est un poème qui est long comme 14 fois la Bible. Immense, le plus long poème, le plus grand poème du monde. Et qui contient toute la civilisation, toute la pensée, même tout le cœur indien. Ouais, tout est là. Tous les Indiens le connaissent à fond, bien entendu. Donc nous avons décidé avec Peter Brook de l'adapter au théâtre d'abord, et ensuite à la télévision et au cinéma. C'était une lourde et lente aventure.
Mais alors, en vous écoutant, je me dis que vous êtes définitivement un athée en quête de spiritualité.
Qu'est-ce que vous appelez spiritualité ? Ça, je n'ai jamais su ce que ce mot voulait dire. Si spiritualité, c'est la vie de l'esprit, c'est ce que ça veut dire. Alors je ne vis que par l'esprit, en effet. Et les scientifiques sont les grands esprits spirituels. Mais très souvent, il faut bien constater que la religion a accaparé le mot spiritualité. C'est comme spiritualité voulait dire croyance. Pas du tout. La croyance, c'est la négation de la vie de l'esprit. On adhère à quelque chose qui existe avant nous, sans fixer à un dogme. À partir du moment où on signe au bas d'un dogme, on renonce à la liberté de son propre esprit. Il faut bien comprendre ça. La vie de l'esprit, ce n'est pas ça. C'est un doute, un questionnement perpétuel. Ce n'est pas d'adhérer à quelque chose, comme des éponges, vous voyez. C'est pour ça que quand on emploie le mot « vie spirituelle », la vie spirituelle, c'est la vie de l'esprit, c'est ce que veut dire le mot.
Absolument.
La religion qui consiste à admettre d'autorité quelque chose qu'on vous inculque, c'est le contraire de la vie de l'esprit. Il faut bien l'admettre.
Alors c'est pour ça que j'ai envie de citer cette phrase que je vous ai un jour entendu prononcer, que je trouve frappante. Comment ne pas savoir aujourd'hui que c'est nous qui avons inventé les dieux ?
Nous le savons. Nous le savons, nous l'avons prouvé. Il y a des milliers d'historiens des religions, hommes et femmes de tous les pays, qui ont étudié minutieusement l'histoire des religions. Nous savons très bien comment elles sont nées, à quel endroit, sous quelle forme, des petits dieux, l'art d'abord familier qu'on mettait dans les maisons pour protéger la maison, comment c'est devenu des grands dieux, comment il y en a eu beaucoup, puis pas beaucoup, puis un seul, lequel, en ce qui nous concerne, s'est divisé en trois, etc. On sait très bien tout ça, mais on ne veut pas le savoir. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre, quand on parle avec des esprits religieux ou croyants, que la croyance est plus forte que la science, plus forte que la connaissance. Elle va bien au-delà. Moi, c'est pour ça que je vous dis, je suis un athée absolument convaincu, mais pas du tout, je n'ai pas du tout envie de polémiquer sur l'existence de Dieu. C'est des conversations de salon et des pertes de temps. Parce que vous ne pouvez pas arriver à convaincre un croyant, et d'ailleurs à quoi bon ? Ça ne concerne que lui. Il y a 25 000 religions et sectes sur la surface de la Terre aujourd'hui, avec des témoins de Jéhovah, etc. Il y en a des quantités, si vous les énumérez. Alors, ça les regarde. mais qui n'essaie pas, en revanche, de me convaincre moi. Voilà.
Vous êtes resté proche du Dalaï Lama ?
Oui, oui, nous avons un projet de film ensemble sur l'histoire des Dalaï Lama. Et je crois que ça va peut-être se faire l'année prochaine. Oui. C'est difficile à monter parce que pour le tourner, on n'a pas le droit de tourner à Lhasa, on n'a pas le droit de tourner en Chine. Oui. C'est compliqué, il faut tourner tout en Inde. C'est assez complexe, mais ça serait absolument passionnant parce que personne ne connaît vraiment la notion même de Dalaï Lama, qui est très originale dans l'histoire du monde, pas très ancienne. Elle date du début du XVe siècle, elle n'est pas si ancienne que ça. Le Tibet a longtemps été un royaume comme les autres. Mmh. Il a même conquis la Chine, vous savez, à un moment donné, ce qu'on oublie de dire. Ce qu'on oublie de dire, par exemple, c'est que quand la dernière impératrice de Chine, la fameuse Cui,
est
morte le lendemain de la mort de son fils, qui était empereur de Chine, en laissant le fameux Puyi, qui est celui du film de Bertolucci. Quand elle est morte, le Dalaï Lama de ce temps-là, qui est le précédent de celui-ci, se trouvait par hasard en voyage à Pékin. C'est lui qu'on a chargé d'organiser le service funèbre de dernier empereur mandchou chinois. Donc, c'est vous dire le prestige dont jouissait le Dalaï Lama, et dans toute l'Asie, en Mongolie, partout. C'était un personnage considérable par son rayonnement, vous diriez spirituel. Il prenait la conquête des cœurs et des âmes, pas celle des territoires et des corps. Alors, maintenant, ce qui se passe au Tibet, qui est désolant pour nous tous, et d'abord pour les Tibétains, est le contraire même de ce que le bouddhisme a enseigné.
Jean-Claude Carrière, vous avez une fille de 50 ans et une fille de 10 ans.
Oui,
est-ce que vous leur avez appris le monde de la même façon ?
Non, pas du tout. D'abord parce que, à l'époque, j'avais moins de temps qu'aujourd'hui. Elle est née quand j'avais 30 ans, donc j'étais très très pris par ma vie professionnelle et je n'ai peut-être pas eu le temps, comme je l'ai aujourd'hui, de m'occuper d'elle. La seconde, c'est plus difficile parce que sa mère est iranienne. Elle est en partie d'une autre culture très très passionnante avec laquelle j'ai beaucoup travaillé, avec les soufis, etc. Et donc là, avec Chiara, la seconde fille, qui d'ailleurs s'entend très très bien avec sa grande sœur, j'ai un tout autre travail à faire. D'abord, je dois être à la fois son père et son grand-père. Elle n'a pas de grand-père. Moi, je suis vieux déjà, donc il faut que je joue ces deux rôles. Pour la première, non, ce n'était pas la peine. J'étais juste son père. Ouais. Et puis, le fait d'appartenir à une demi-culture différente de la mienne, elle parle et elle apprend déjà le persan à l'école, il y a 10 ans, crée entre nous quelque chose de différent, qui est absolument passionnant à observer. J'adore être avec elle et lui parler, etc. Elle commence à faire du théâtre, de la musique, elle joue de la harpe, enfin, etc.
Le temps passe trop vite avec vous. Une dernière question que je vais poser au sage que vous êtes, Jean-Claude Carrière, en rappelant d'ailleurs ces vers que vous avez traduits du Mahabharata. Vous avez traduit, ils étaient écrits en sanskrit, « Ce monde est une roue qui tourne, un passage dans le grand océan du temps où nagent deux requins, la vieillesse et la mort. Rien ne dure, pas même ton corps. Plaisir, douleur, tout est fixé. »
Ce que tu désires, tu l'as. Ce que tu ne désires pas, tu l'as. Personne ne comprend pourquoi.
Eh bien, vous venez de répondre alors à ma question.
Ça, c'est parmi les phrases les plus belles, les plus matter of fact, comme on dit en anglais. Parce que la philosophie indienne repose sur le fait, elle est très pratique au fond. Elle dit, tu es cela. Ne cherche pas à être autre chose. La phrase fondamentale du Bouddha, répétée dans toutes les écoles bouddhiques aujourd'hui, c'est « Attends tout de toi-même. N'attends rien d'une force ou d'une puissance extérieure. »
Merci pour ce voyage et cette leçon de sagesse.
Merci à vous.
Je vous embrasse, Jean-Claude Carrière. Nous, on se donne rendez-vous dimanche prochain à 14h pour un nouveau numéro d'Il n'y a pas qu'une vie dans la vie.
À samedi prochain, Isabelle Morizet pour un nouveau voyage. Donc, restez avec nous dans quelques instants. Votre hôte sera Jackie Gallois pour 100% Europe 1.